de Shmuel. Voilà. Alors, tu nous offres, vous nous, Izzy, vous nous offrez un cigare là?
Ah, voilà. un peu fumiste de temps en temps.
On a dit fumiste, pas fumeux.
Voilà, mais...
Allez. Alors, on y va. Alors, vous avez le texte. Le point, c'est comme ça. Donc, David est allé avec Bathsheba. Et, comment dire, ça fait un gros problème, un énorme problème sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Et même après avoir passé séance après séance sur le problème de Bathsheba, de David et Bathsheba, il est difficile de définir de manière extrêmement précise quel était le problème. Bon. En tout cas, il y a eu un gros problème. Pardon. Allô? Oui, regarde, je suis en cours. Je te rappelle quand je pourrai. Excuse-moi. Hein. Merci de m'avoir rappelé, David. Hein, je te rappelle. Donc, le point. Donc, il y a eu un gros problème. Le prophète Nathan a fait des remontrances à David. Et là, nous avons vu deux choses. Nous avons vu la grandeur du prophète Nathan, qui a eu la force de caractère de faire des réprimandes au roi, des réprimandes cinglantes au roi, et la grandeur de David qui a écouté ses remontrances. Mais David va être puni, que Hachem lui dit, les malheurs ne quitteront plus ta maison. Je lèverai le mal du sein de ta maison. Et si, depuis le début, que David apparaît dans les textes, c'est vraiment grandeur, gloire de David, à partir du verset que nous allons commencer, ça va être grandeur et décadence. Ça va être vraiment la catastrophe. Catastrophe sur catastrophe. Alors, on commence le verset Aleph. Vayehi Rareken. Alors, encore quelque chose avant de commencer. Pour étudier les textes des prophètes, c'est un gros travail. C'est un gros travail. D'ailleurs, dans les yeshivot, on n'étudie pas tellement les textes des prophètes parce que, en vérité, ça demande un gros bagage technique pour les aborder. Voilà. Alors, Vayehi acharichen ul'Avshalom ben David achot Yafa u'Shema Tamar vayavea Amnon ben David. Ce fut après cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce fut après cela, c'est-à-dire ce fut après la prophétie de Nathan qui lui a dit que le mal n'arrêterait pas de sa maison. Donc voilà, maintenant ça va arriver. Et Avshalom, fils de David, a une sœur, Yafa, très belle, ou Shema Tamar. Son nom, c'est Tamar. Ça veut dire quoi, Tamar?
Une date, par exemple.
Vayavea Amnon ben David. Et Amnon, le fils de David, l'a aimé. Voilà. Amnon est le fils aîné de David. C'est le fils de, si je n'abuse, de Avital. Voilà, Avital, Israélite. Avital, Israélite. Et c'est le fils aîné de Amnon, c'est le prince qui normalement doit succéder à David. Bien que nous ayons vu les fois dernières que David avait promis, avait juré à Bathsheba que ce serait Shlomo qui régnerait après lui. Mais non, le fils aîné, c'est Amnon. Voilà. Alors, regardons Rashi. Oulav Shalom, Achot Yafa, il a une sœur belle, Shaita Batimo, c'est-à-dire la Avshalom a le fils de David. Donc, Avshalom, c'est le fils de David, Amnon, c'est le fils de David, et Amnon est amoureux de la sœur d'Avshalom. Donc, l'équation est un peu difficile, si vous voulez. Et, alors, Rashi dit, Shaita Batimo, c'était la fille de sa mère. C'était la fille de la mère d'Avshalom. Alors, nous savons que Avshalom est le fils du Nefat Toar. Voilà. Béni, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est Nefat Toar?
Non.
Nefat Noir. Nefat Noir.
Alors, qu'est-ce
que c'est? On emploie cette expression pour Sarah? Non, pas tout à fait la même. Hein.
Comment?
On emploie cette expression pour Sarah?
Non. C'est un statut très précis. Un statut très précis qui nous serons donc obligés de rentrer dans le statut juridique de la Yefat Toar. Ah, bonjour Fabien et bonjour Élie. Vous vous mettez en bonjour. Vidéo si c'est possible, ouais. Je préfère. Hein. Ouais. Alors Élie, tu m'as dit que tu ne pouvais pas venir.
Parce que c'était le fiançailles de ma belle-sœur.
Et c'est fini.
Finalement, ils ont fait la journée.
Comment ? C'était la journée, d'accord.
Donc voilà, parce qu'avec le couvre-feu, ils ont préféré le faire la journée.
Ah, d'accord, très bien. Alors, il y a notre ami Asher.
Ah oui, Asher,
derrière, là. Asher, Asher El Mouchnito.
Non, il a parlé de temps.
Asher, viens voir.
C'est la honte.
Oui, là, c'est bien, c'est une bonne qualité. Fabien, tu peux pas mettre la vidéo? Non, c'est pas grave. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que c'est Yefat Toar? Bonjour Fabien.
Comment bon ça s'écrit?
Bon anniversaire. Alors, c'est l'anniversaire de notre ami Fabien. Voilà.
Bon anniversaire.
Voilà. Champagne pour tout le monde. Alors, Yefat Toar. Yefat Toar. Excusez-moi, vous me connaissez, je peux me permettre. En bonne traduction en français, ça veut dire, excusez-moi, bien évidemment, belle gueule.
Voilà. Ouais.
Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, bien.
Un beau minois.
Ouais, mais ça, c'est trop.
C'est trop saupoudré.
C'est trop recherché.
C'est justement le saupoudré qui veut.
Voilà.
Alors, de quoi s'agit-il? Regardez, prenez un roumache et regardez le début de Parashat Kitetsé. Donc, il faut des bases pour aborder les versets que nous allons voir. On va prendre le roumache. Alors, Parashat Kitetsé, dans Devarim.
Bisous.
Ouais. C'est dans Devarim, chapitre Kaf Alef, verset Yud.
Il n'y a pas de problème. J'ai Ekev.
C'est bon, est-ce que vous avez le chumash avec vous?
Oui. Ok, kitetse la milchama. Ok. Moi
aussi. C'est bon. Kitetse la milchama. Aloy vecha.
Moi aussi.
Onetano Hashem Elokecha beyadik shavita shivyo.
Amen.
Quand tu sortiras à la guerre, c'est là les commentaires.
Déjà,
je n'entends plus rien.
Moi, je mange. Je pense qu'on allait manger. Je mange des cookies. Moi, je mange des cookies.
Qui mange des cookies?
Ah, c'est moi.
Donc, il y a des cookies. C'est Eliyahu Mimoun. Que tout le monde le sache. Voilà. Kitetse la milchama, quand tu sortiras la guerre contre toi, on ne t'annon Hashem Elokecha biadecha, que l'Éternel, ton Dieu, a donné ton ennemi dans ta main, et Shavita Shivio, et que tu as ramené les captifs de la guerre. Veraita ba Shivia eshet yefatoa vechashaktaba velakarta lecha leisha. Tu verras dans les prisonnières une femme très belle. Tu désireras en elle et tu la prendras comme femme. Veveta tobetera, tu l'amèneras dans ta maison. Vegilcha et rocha veasta et sipornea, tu l'amèneras dans ta maison. Elle rasera sa tête et laissera pousser ses ongles. Vesira et simlat shivya ma'alea, elle enlèvera l'habit de captive d'elle, veyashva bebetera, elle sera assise dans ta maison, barta et avia vetima irariamim, elle pleurera son père et sa mère un mois plein, bararken tavo elea, ubealta vaita lechalisha. Après, tu auras une relation avec elle et tu la prendras pour femme. Et si tu n'as plus de désir en elle, tu la reverras à elle-même. Tu ne pourras pas la vendre avec de l'argent. Tu ne pourras pas la faire travailler. Parce que tu l'as offensée quelque part. Alors, il y a tout un corpus d'Alachot sur ces versets. Il y a un grand débat. Alors, la plupart des commentateurs expliquent ce passage de la manière suivante. Quelqu'un part à la guerre. On sait que quand on part à la guerre, dans la guerre dont on parle dans la Torah, ceux qui partent à la guerre, on voit à la fin de Parashat Shoftim, que ce sont que les tzadikim qui partent à la guerre. Si quelqu'un il fait des fautes, on sait qu'il fait des fautes, etc., il reste à la maison. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on gagne la guerre? C'est les mérites. Ce n'est pas la force du poignet et la force des fusils Uzi. C'est certes, il faut des fusils Uzi. Il faut des armes. Mais c'est les mérites qui font qu'on gagne la guerre. Donc, des fauteurs, etc., ils restent à la maison. Bien. Alors, ceux qui partent à la guerre, c'est des tzadikim. OK. Maintenant, il s'est trouvé qu'ils ont gagné la guerre et ils rapportent des captifs. Le verset dit, si quelqu'un qui est parti à la guerre voit une captive et qu'il est amoureux de cette captive, alors, d'après la plupart des décisionnaires, il a le droit de coucher avec elle. À une condition, c'est que, après avoir couché avec elle, il l'amène chez lui et avec le protocole suivant. Il ne doit pas, si vous voulez, ici, c'est une législation pour encadrer le viol de guerre. On sait qu'à la guerre, il y a des viols tout le temps. Il y a des viols tout le temps. On a déjà parlé de ça à des séances précédentes, mais comme il y en a quelques-uns d'entre vous n'était pas assez, comment dire, séance précédente. Je dis un mot là-dessus. Je dis un mot là-dessus que les viols de guerre sont systématiques. La Gemara parle beaucoup de ça parce que c'est un sujet halakhique délicat, parce qu'une femme, une femme juive par exemple, qui a eu une relation avec un goy une fois, ne peut plus se marier avec un Cohen. Donc c'est des lois qui sont travaillées, parce que malheureusement, au fil des années, c'est des siècles, c'est arrivé, des viols des fois systématiques. Alors, je vous donne un exemple. J'ai discuté longuement avec ma belle-mère, Aléa Shalom, qui était rescapée d'Auschwitz. Je lui ai demandé. Elle nous a raconté la chose suivante. Quand ils ont été libérés d'Auschwitz, après quelque temps, ils sont allés dans un train qui les ramenait dans leur pays natal, en l'occurrence la Hongrie. Et il y avait des soldats russes dans le train. Les soldats russes ont violé systématiquement toutes les femmes, l'une après l'autre, dans le train. Donc ça veut dire qu'elles étaient rescapées d'Auschwitz, mais l'affaire ne s'était pas arrêtée là, quoi. Les libérateurs, elles ont entendu, ma belle-mère et sa sœur, ont entendu les cris, les hurlements dans les wagons derrière. Elles ont compris ce qui se passait. Il y a eu un arrêt en race campagne, elles sont descendues pour ne pas être violées. Donc ça veut dire... Alors, moi, j'ai demandé à ma belle-mère, j'ai posé des questions qui a des traits halakhiques pour comprendre un peu certaines choses. Elle m'a dit, mais ça, je ne sais pas que les Russes étaient les Américains, c'était pareil, comme ça, elle m'a dit.
Le chocolat.
Voilà, j'en ai déjà parlé, tu as déjà entendu ça.
Ouais. À nous deux, oui. C'est important, c'est intéressant, oui.
Seulement, les Américains, ce n'était pas avec des taloches, c'était avec des plaques de chocolat. Mais c'est des choses très importante, parce qu'aujourd'hui on est dans une société aseptisée, ou alors elle n'est pas du tout aseptisée, mais on s'imaginerait que ce serait aseptisé. Donc il y a la guerre, il y a le viol, c'est comme ça. Alors maintenant, la Torah légifère sur le viol de guerre. Si tu es amoureux d'une femme à la guerre, ok, tu as le droit de coucher avec elle, à une condition. Elle n'est pas juive. Là, les Rachamim disent qu'il vaut mieux légiférer dans un cas comme ça, plutôt que si tu ne légifères pas, de toute façon, ça va être la cavalcade. Donc, il vaut mieux permettre, dans un cas limite, une femme non juive, plutôt que... Mais, il y a des conditions. C'est qu'une fois qu'il est allé avec elle, il n'a pas le droit de la laisser sur le bas du chemin. Il l'amène chez lui et pas de soins esthétiques pendant un mois, pas de coiffeur pendant un mois, et il va voir qu'en vérité, il n'a rien à foutre avec elle, quoi. Alors, si au bout d'un mois, il voit qu'il la désire toujours, il la convertit. Là, il y a une conversion. Alors, c'est une conversion qui n'est pas une conversion en vérité, en général. Une conversion vient parce que la personne est, comment dire, une volonté de devenir juive. Elle n'a aucune volonté, cette femme. Néanmoins, c'est une conversion un peu sous la contrainte. C'est un cas limite. Si au bout d'un mois, il la désire encore, alors il fait la conversion et ça devient sa femme. Légitime, elle devient juive. Maintenant, s'il la désire, au bout d'un mois, il voit qu'en vérité, ils ont rien, ils s'ennuient ensemble, qu'elle est idiote, parce que nos maîtres disent qu'à la guerre, les idolâtres maquillent les femmes pour que les femmes, finalement, ne soient pas massacrées, maquillent les femmes avec des beaux habits, etc., pour qu'elles ne soient pas massacrées, et par leur charme, arrivent à s'en sortir. Mais une fois qu'elle a plus ses beaux habits. Comme dit le verset, elle enlève ses habits, elle laisse ses ongles pousser, elle ne va pas à la manucure, elle laisse ses cheveux pousser, etc. Il dit, oh là là, qu'est-ce que je fais avec elle? Alors là, il la libère. Il n'a pas le droit de la garder en esclave, il la libère. Bon, ça c'est les versets. Bien. Alors, David, le roi David, a eu plusieurs yéphatoires. Le roi David, tzadik parmi les tzadikim, a eu plusieurs yéphatoires, dont Ma'ara, la fille du roi de Geshur. Alors, la mère de Tamar, elle s'appelait Ma'ara, la fille du roi de Geshur. Bon, c'était Geshur, c'était une peuplade dans le coin, et c'était la princesse de Geshur. Alors, la plupart des commentateurs disent que quand David, dans le camp des prisonniers, il a vu cette femme, il l'a désirée, il est allé avec elle, elle a été enceinte. Elle a été enceinte d'une fille qui s'appelle Tamar. Cette fille ensuite s'est convertie, cette Ma'ara s'est convertie elle-même, et ensuite David a continué à vivre avec cette femme qui est devenue sa femme légitime, Ma'ara, et une fois qu'elle s'était convertie, il a eu un fils qui s'appelle Avshalom. Et c'est ça ce que le verset dit, que Avshalom est appelé fils de David. Mais Tamar, c'est la sœur d'Avshalom par la mère, mais ce n'est pas écrit que c'est la fille de David, parce que si quelqu'un a un enfant d'une non-juive, cet enfant n'est pas lié juridiquement au père. Donc, lorsque Amnon, frère par le père de Avshalom, est tombé à son tour comme son père, le père était amoureux de la mère et le fils amoureux de la fille, Amnon, juridiquement, il est amoureux, mais ce n'est pas un inceste. Est-ce que ça, c'est clair? Monsieur Benjamin Fréa, bonjour. Bonsoir. Allô?
Oui.
Ça va, Benjamin?
Bon,
ok. Bonjour, Pia. Bonjour, Pia Cohen. Bon, ok. Alors, tout ça pour dire que, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair que... Voilà. Amnon, juridiquement, c'est pas sa sœur juridiquement. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus?
Oui.
Ou est-ce que c'est pas clair?
Pour moi, c'est clair.
Donc,
prenons un exemple. Tu as un feuge, ouais, un feuge. Il est un premier mariage. Il est marié avec une juive. Et il a un fils, une juive. Et ce feuge, il a un enfant d'une Goya. Et cette Goya ensuite se convertit. Eh bien, le fils de la juive a le droit d'épouser sa sœur biologique, mais juridiquement, c'est pas sa sœur. Eliaou, c'est clair? Comment? C'est bon?
Oui, c'est très clair, oui.
C'est clair? Bien. Alors, ça, c'est la Shita Trambam. Ça, ce que je vous dis, c'est la démarche de la plupart des Rishonim. Rashi a, dans la Gemara, dans plusieurs endroits, dans Sanhedrin et dans Kiddushin, une autre démarche. Je vous dis la démarche que je vous ai dit, elle est claire. Rashi a une toute autre démarche qui soulève énormément de questions. Mais je vous dis la démarche de Rashi. Rashi dit la chose suivante. Que Chas v'Shalom, jamais un juif n'a le droit d'avoir une relation avec une non-juive. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce statut de Yéfat Toar, le statut est comme ça, qu'il voit dans le camp des prisonnières une très belle femme qui il est extrêmement attiré par cette femme. Il la prend, il la convertit, il l'amène au mikvé. Il a dit, maintenant, tu dois faire les commandements de la Torah. Donc, c'est une conversion contrainte. Là, une fois que c'est fait, il a le droit d'avoir une relation avec elle. Mais étant donné que c'est qu'une conversion contrainte, si elle a un enfant, cet enfant, juridiquement, n'est pas affilié au géniteur. Parce que c'était une conversion sous la contrainte. Un mois après, elle reste. Si elle est d'accord après de devenir juive, ça deviendra une deuxième étape, une conversion consciente, voulue. Et là, après, deuxième conversion, après, l'enfant qu'il aura, étant donné que là, elle peut dire oui, elle peut dire non, l'enfant qu'elle aura sera affilié au géniteur. Et c'est comme ça, il explique notre passage. Voilà. Donc, c'est un grand débat. C'est un grand débat. La plupart des commentateurs n'expliquent pas comme Rashi. Mais c'est la démarche de Rashi. On verra tout à l'heure dans la Gemara d'Afkafalev, dans Maseret Sanhedrin, vous verrez Rashi qui dit que c'était la fille de Mara, la princesse de Geshur, parce qu'elle avait été convertie sous la contrainte. C'est pour ça qu'elle n'était pas affiliée à David. Voilà, ça, c'est la démarche de Rashi.
Mais ça ne change rien par rapport à entre les premières Chita et la deuxième, enfin, les deux versions que vous avez données, par rapport entre Amnon et Tamar. Comment elle s'appelle, et Tamar, ça ne change rien, les deux ne sont pas affiliés de toutes les façons.
Oui, oui, ça, par rapport à ça, ça ne change rien. Mais au niveau, si tu veux, je dirais, excuse-moi, je vais dire un gros mot, conceptuel, qu'il y a une conversion, un concept de conversion sous la contrainte, c'est un peu, sont des mots qui ne vont pas ensemble, si tu veux. Tu vois, c'est... Et que, finalement, elle est juive quelque part, mais l'enfant n'est pas affilié au géniteur, c'est un peu une circonvolution juridique. On peut se poser la question, si vous voulez, ça interroge quand même, tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu as des personnes qui se convertissent dans de multiples tribunaux rabbiniques, qui ne sont pas du tout convaincus, mais qui le font pour se marier. Quel est le statut de ça?
Non, c'est... mais il n'y a pas de marloquette entre Rashi et les autres commentateurs par rapport à ça. C'est simplement que Rashi avait une autre version de la lecture de Nevim. Parce non, qu'on n'est pas... On peut...
Il y a quelqu'un qui va au mikvé sous la contrainte de l'amour, mais finalement la personne ne veut pas se convertir. Moi, je connais des gens comme ça, ils s'en foutent complètement. Mais bon, l'amour, mais c'est aussi une contrainte. Quelle est la différence entre c'est une contrainte, c'est pas une volonté.
Oui, oui, mais c'est-à-dire ça change. Tous les commentateurs, Rashi inclus et les autres inclus, peuvent très bien dire que ça marche pas ou que ça marche. Je sais pas, mais en tous les cas, il n'y a pas de différence par rapport à ce qu'on vient de dire. Ça ne rentre pas, ça, l'histoire de...
Mais, non, mais c'est vrai, mais bon, mais si tu veux, Rashi propose une démarche extrêmement étonnante, qu'on voit quelqu'un a été converti par la contrainte, et que l'enfant n'est pas affilié à son géniteur. Bien que finalement, quelque part, elle n'est plus Goya, hein, puisque d'après Rashi, c'est impossible d'avoir une relation avec une Goya. Donc, quelque part, elle n'est plus Goya. Et quand même, l'enfant n'est pas affilié. Donc,
Si elle est convertie par la contrainte, c'est un peu normal que son enfant ne soit pas... Si c'est par la contrainte.
Oui, alors disons qu'elle n'est pas convertie, c'est ce que les autres vont dire. Ce concept-là est quand même bizarre. Hein.
Mais
convertir les gens sous la contrainte, c'est un peu antagonique.
Ouais. Je ne voudrais pas être hors sujet, mais c'est un sujet en soi.
Oui, mais c'est une
énorme. Une conversion. Bon, ici, on emploie le terme de contrainte. Mais on va dire que quelqu'un qui se convertit, je vais dire devant un bédine, avec un bédine sérieux, de toute façon, il ne sait pas ce qu'il fait. Il lui faudra une vie, comme à nous, d'études, de savoir qu'est-ce qu'on a fait, comment on s'approche des mitzvot, de la Torah, d'Hachem, etc. Donc, on ne va pas parler de contrainte physique, forcée, je ne sais pas, mais quelque part, il y a une volonté de devenir juif, on va dire, pour faciliter les choses, mais le gars ou la dame, ils ne savent absolument pas ce qu'ils font. Donc, où est leur véritable volonté? Ils vont le découvrir dans une démarche qui va être toute leur vie, en fait, comme nous-mêmes qui sommes, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne naît pas juif, on le devient.
Bon, ça c'est un sujet qui est abordé d'Af Kavbet à Moulbet dans le traité Yevamot. Il y a quelqu'un qui dit « En rêve, on m'a dit que je me convertisse. » On n'accepte pas une conversion comme ça. Une conversion doit venir quand même par une démarche. Une démarche, ça veut dire, moi j'ai connu beaucoup de gens qui se sont convertis, ils savaient ce qu'ils faisaient quand même, même s'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprennent pas tous les tenants et les aboutissants, mais quand ils le font, ils le font.
Parfois par intérêt.
Comment ?
Parfois pas par contrainte, mais par intérêt.
Non, mais je parle des vrais convertis. Hein. Non, je parle au fil des années,
j'ai
montré soit des hommes, soit des femmes qui n'étaient pas nées juives, mais qui avaient une conscience extrêmement claire de leur volonté de rentrer dans le peuple d'Israël. Donc, maintenant, tous les tenants et les aboutissants, ils ne le saisissent pas, mais ils étaient quand même clairs quand ils l'ont fait. Ça, je peux témoigner. Hein.
Ouais.
Je peux témoigner, ça existe hein, quand même. Et pas un, et pas deux. Hein. J'en ai rencontré dans ma vie. OK. Alors, on va continuer. Donc, Amnon est tombé amoureux fou de sa sœur biologique qui n'est pas sa sœur juridique. Que ce soit d'après la démarche de Rambam et de la plupart des commentateurs majoritaires et la démarche de Rashi. Verset bête. Va yetzer les Amnon les Itralot, Bavour Taman, Tamar, Achoto, qui betoula i. Va y parler, Bene Amnon, la sotla Meuma. Et Amnon a en devenir malade. À cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. C'est-à-dire que les filles vierges étaient extrêmement elles étaient dans la maison des femmes, quoi. Elles sortaient pas de la maison des femmes. Il y avait, c'était oriental, quoi. Les femmes, elles étaient dans la maison des femmes. et les jeunes filles encore plus, quoi. Elles étaient préservées, elles étaient complètement préservées dans la maison des femmes. Voilà. Veipalé, et ça paraissait impossible, Ipalé, c'était loin de lui, aux yeux d'Amnon, de lui faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'était... Il n'y avait pas Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Il ne savait pas du tout Zoom. Comment faire quoi que ce soit. Il n'y avait pas Zoom, évidemment. Donc, il était dépassé par les événements. Comment rencontrer sa sœur ? Ou l'Amnon Réa. Amnon avait un ami. Réa, c'est un ami. Hein. Réa, c'est pas Ra, c'est Réa. C'est comme Ve'avta le Réa Ra Kamora. Tu aimeras ton prochain, ton ami. Amnon avait un ami. Shemo Yonadav ben Shima Ari David. Son nom, c'est Yonadav, le fils de Shima, le frère de David. Donc, c'est un cousin de Amnon. Shima, c'est le frère de David. Donc, c'est le cousin. Ve'yonadav, Ish Chacham Meod. Et Yonadav est quelqu'un de très, très chacham. Alors, regardez Rashi, Gimel. Chacham la Risha, intelligent dans le mal.
Aïe, aïe, aïe.
Il y en a, ils ont des intelligences pour le bien. Mais il y en a, c'est des âmes damnées pour une intelligence. Des génies pour le mal. C'est la Gemara qui dit ça. Vayomer lo, il lui a dit. Donc, il a compris, il voit son cousin là qui est comme on disait au 19e siècle, mélancolique. Voilà. Il voit son cousin mélancolique. Vayomer lo. Madoua ata kara dal ben ameler baboker. Allo tagidli. Vayomer lo tamnon, amnon. Et tamar achot avshalom ahi ani oev. Il dit, Madoua, pourquoi es-tu ainsi dal? Dal, ça veut dire maigre. Rachidi, karouche, maigre. Pourquoi tu es tellement maigre? Donc, il n'arrivait plus à manger. Amnon, c'est le frère aîné de toute la grande fratrie des enfants de David. C'était un grand balèze, beau gars, tout ça. Et là, pourquoi tu es tout maigre le matin? Dès le matin, là, je ne sais pas, tu as passé des nuits blanches. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout chiffonné. Allô, Tagibi, raconte-moi. Vayomerlo, Amnon lui dit, Tamar, la sœur d'Avshalom, mon frère, j'aime. Verset suivant. Vayomerlo, Yonadav, Shechav al Mishkavra, Veitral, Uba avira lirotra, Vamarta elav, Tavona, Tamar, Achoti, Vatavreni lechem, Vastalenaï et Abiria, le manacher erré, va chalti miyada. Alors regardez, là, ça sera, c'est très profond, mais c'est un petit peu technique. Je traduis précisément, c'est un petit peu technique. Yonadav lui dit, Shrav al Mishkavra, couche-toi sur ton lit. Peitral, fais-toi malade. Fais comme si tu étais malade, comme si tu avais le corona. Non, c'est pas bon le corona, parce qu'à cause de la suite, il y a du bidou. Mais fais comme si... Non, c'est pas bon pour la suite. Non, fais que, je sais pas, tu as de l'angine, une angine. Que tu es malade. Ou ben, vichar, l'ichotra, ton père va venir. Ben, c'est le fils aîné de David. Ton père va venir et tu lui diras, que vienne Tamar, ma sœur, va t'avreni lechem, qu'elle me requinque de pain, qu'elle me donne à manger du pain, et qu'elle fasse à mes yeux le réconfort, c'est-à-dire qu'elle prépare devant moi le pain à faire, elle fasse du pain devant moi, le man à chair erré pour que je la voie faire et je mangerai le pain. Alors, j'ai vu le Malbim explique comme ça, que Yonadav était très intelligent. En vérité, Amnon, il avait honte de dire à son père qu'il aimerait épouser sa sœur, sa demi-sœur, parce que, si vous voulez, en yiddish, on dit « rpas nicht » quand même. C'est ça. Bien qu'en vérité, c'est cachère. C'est cachère, mais tout, c'est, elle, depuis qu'elle est née dans le palais de David. Donc, c'est la fille de David. Bien que au niveau du dossier au Bédin, c'est pas la fille de David, mais c'est la fille de David. D'ailleurs, il dit là, ma sœur quand même, bien que c'est pas sa sœur, tout en étant sa sœur, c'est pas sa sœur. Donc, donc il n'ose pas. Mais l'autre, il va lui dire, parce que il dit que dis à ton père, tu vas te faire le malade, venir te voir, tu dis voilà, moi j'ai besoin d'être requinqué, de me redonner, j'aimerais que ma sœur vienne, me fasse à manger, que je la voie faire à manger, et que ça me donne de la force et je mangerai de sa main. Ça, c'est ce que Yonadav dit à Amnon de faire. Et Amnon, quand il va parler à David, il ne va pas dire comme ça, il ne va pas bien comprendre. Il n'était pas aussi fufu que son cousin.
Donc, c'est un conseil pas de réchoute, alors.
Oui, c'est vrai, pas si rachat que ça. La démarche du Malbim, ça, c'est la démarche de Malbim.
Elle dédouane un peu.
Que, sous-entendu, c'était une manière, si tu dis ces paroles-là, papa, ton père va comprendre qu'il y a quelque chose d'émotionnel dans cette histoire. Ce n'est pas simplement de manger. C'est qu'elle fasse à manger devant moi. C'est, excusez-moi l'expression, c'est érotique, quoi.
C'est notre... Il y a un rapport avec Nida, pas Nida, quand on fait à manger, qu'il peut manger, qu'elle ne soit pas Nida, comme ça il est sûr, et qu'il puisse aller avec elle.
Ah oui, parce que si le pain, et elle est Nida, le pain est impur. C'est bien, c'est une idée intéressante, mais ce qu'il voulait dire là, c'est que ton père va comprendre qu'il y a un problème émotionnel et d'amour, quoi.
Affectif, oui.
Affectif, voilà. Alors, Vaishka Bamnon, Vaishka Bamnon, Vaitral. Vayavo Ameler, Liroto, Vayomer Amnon el Ameler, Tavona Aroti, Tamar Aroti, Vatelavev le Enaj, Te le Vivot, Ve Evra Meyada. Amnon s'est couché, il s'est fait malade, le roi est venu le voir. Amnon a dit au roi, alors là, ce n'est pas dit à David son père, mais c'était au roi. Que vienne Tamar, ma sœur, ou te lavez, les nages, tes levivotes. Alors, des levivotes, c'est quoi des levivotes? Même encore en hébreu moderne, levivotes, c'est quoi des levivotes, monsieur?
Des crêpes. Des crêpes.
Voilà, je mets un petit clapping là. Clap. Clap. Voilà. Voilà, c'est des crêpes. Qu'elles viennent faire des crêpes. C'est pas ce qu'il avait dit, Yonadav. Hein?
Non, il avait des gâteaux.
Du pain. Un plat. Elle fasse devant moi deux crêpes. C'est pas beaucoup. Il avait un appétit d'oiseau, tu vois. Là. Il était vraiment deux crêpes. En Israël aussi, des blinis. Hein?
Blinis. Ouais. Hein?
deux crêpes et je me évra, c'est la chaîne Bari, je me requinquerai de sa main. Alors, j'ai vu un commentaire sublime sur ce passage que notre ami Meir vous a envoyé. C'est d'un livre qui s'appelle le Oel Rachel. Petite seconde. Page 107 du livre Oel Rachel. Est-ce que vous avez ça avec vous? Page 109.
On a reçu les textes, oui.
109, page 109. Bien. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il y a un maître qui est à Jérusalem qui s'appelle Rav Menachem Schlanger. Et il y a 30... environ 34 ans, il a écrit un livre qui est un chef-d'œuvre, vraiment, un livre qui fait plaisir, qui s'appelle Oel Rachel. Je vais expliquer. Tu connais, Eliaou, ce livre?
Excusez-moi. Rav Schlanger, c'est... C'est la famille des Schlanger de...
Non,
d'accord.
Non, non. Alors, ce Rav Menachem Schlanger, c'est le fils d'un Rav Moshe Schlanger, qui est un Rav de... c'est le Majguiar de l'Eshiva Porat Yosef à Jérusalem. Et ce Rav Menachem Schlanger donc, a écrit ce livre. Et avec mon épouse, on a étudié... systématiquement ce livre et ma femme a enseigné ce livre pendant 30 ans. Elle a enseigné plusieurs cycles sur ce livre. Elle a fait la traduction même intégrale en français du livre. Bon, mais on ne l'a pas publié parce qu'il faut des commentaires. C'est un livre très profond, extraordinairement profond. Et le livre est fondé sur les trois mitzvot des femmes. C'est-à-dire que nos maîtres disent qu'il y a trois mitzvot qui sont spécialement structurants dans la vie d'une femme. Il y a les lois de Nida, la pureté familiale, la challa, prélever la challa du pain, et allumer les nérodes de Shabbat. Et il a construit son livre sur le sens profond, pourquoi ces trois mitzvot structurent la vie de la femme. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à la structuration de la vie de la femme. Il a écrit un livre entier là-dessus. Alors, dans le passage relatif à la challa, il fait un développement. Ce livre nous a tellement apporté et impressionné qu'on a voulu rencontrer l'auteur, qu'on a rencontré, et on est, je ne veux pas dire intime, mais on est amis avec Rav Menachem Schlanger. On a un lien d'amitié, pas très soutenu, mais on a un lien d'amitié. Voilà. Il est plus jeune que moi, hein, entre parenthèses. Voilà. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens d'exception dans notre génération, franchement. Alors, il explique la challa, il fait tout un développement sur le fait de manger. Et on prélève la challa, qu'est-ce que c'est la challa? On prélève la challa, une partie de la pâte qu'on donne au Kohen. On donne au Kohen, si vous voulez, c'est un peu comme un korban, comme une offrande qu'on fait au Kohen. Alors, de nos jours, on prélève la challa, mais comme la challa doit être mangée dans un état de pureté, on ne la donne pas au Kohen, on la brûle. Voilà, c'est comme ça, de nos jours, que nous faisons. On doit la prélever, mais on ne peut pas la donner au Cohen. Alors maintenant, il explique la base. Pourquoi la Torah nous donne la mitzvah de challah à partir de la pâte? Alors, bon, c'est un développement très long, mais disons en quelques phrases, mon souvenir, c'est la chose suivante. C'est que l'être humain est un être très complexe. On ne se nourrit pas de choses simples. On ne se nourrit pas de... On peut manger de la salade, mais bon, quelqu'un qui mange trop de salade, c'est excusez-moi l'expression, c'est un lapin ou une vache, quoi. On mange, l'humain mange des éléments complexes, mange des éléments cuits. D'ailleurs, notre brave Claude Lévi-Strauss a dit que la base, un des éléments structurels de la société humaine, c'est le fait que l'humain cuit. Il y a énormément de rites dans toutes les cultures liées à la cuisson. La cuisson, c'est pas simplement bon, il faut bien cuire, mais ça représente la cuisson, une dimension humaine. On fait passer de l'état de nature à l'état de culture. L'homme, par son action, transforme. Pas seulement ça, mais le pain est un mélange, parce que l'humain est un mélange. Quand on dit que Dieu, il a pris de la terre, il a mis de l'eau, il a pétri l'homme, il a pétri l'humain. Eh bien, on est un des éléments complexes. Ces éléments complexes, l'aliment qui correspond le mieux à la complexité humaine, c'est le pain, parce que c'est un corps extrêmement complexe, qui lève d'ailleurs. La matzah, on peut en manger quelques jours, mais ce n'est pas fait pour. La matzah, ce n'est pas fait pour être mangée. On mange quelque chose qui lève, qui a du levain, qui est composé. Nous, on est des éléments composés. On a des bons caractères, des mauvais caractères. Tout ça, ça fait notre personnalité. Et il rajoute, on n'est pas que des êtres matériels. On a la neshama aussi. Quand on mange, on nourrit aussi la neshama. C'est ça la challa. Quand on mange du pain, il est lié au fait de manger une mitzvah qui shama, qui est la challa que l'on prélève et qu'on donne au Kohen. C'est pour ça que quelqu'un qui fait du pain, on prélève la challa que sur du pain fait par un juif, pas fait par un goy. Mais un juif fait de la pâte, ne prélève pas la challa, quelque part, ça voudrait dire pour lui qu'on se nourrit que du matériel. La challa va exprimer, ça va, challa, ça prend, on donne une dimension, quelque part, de neshama, de mitzvah à ce qu'on mange. Et le pain est dimension très particulière, la base de l'alimentation, en tout cas dans la civilisation dans laquelle nous on est, c'est le pain. Il y a d'autres cultures que je ne connais pas, où la base de l'alimentation, c'est le riz, ou bien le sorgho, ou bien le maïs, que sais-je. Mais nous, le peuple juif, évolue majoritairement dans une des cultures dont la base de l'alimentation, c'est le pain. Alors, il va développer à partir des versets que pas seulement le pain comme produit fini, mais même la fabrication du pain amène une structuration de notre personne. Regardez ce qu'il va dire. Donc, c'est la page 109. Pia, vous avez le texte là?
Moi, j'ai le texte de Shmuel, mais je n'ai pas le texte de... Il faudrait que je reprenne mon portable.
Bon, alors, je vais le lire et traduire, hein, ce n'est pas grave. Mais voilà. Et koar achayut, amyuchat shebalechem, anu le midi, mais Paracha Benavi Nehemia. La force de donner de la vie spécifique qui se trouve dans le pain, on l'apprend d'un passage dans les prophètes, et c'est notre verset. Alors, entre parenthèses, ça c'est super bobo. Ouais. Moi, j'habite dans un quartier bobotissime, et à 100 mètres de chez moi, il y a monsieur et madame Bobo. Ils ont fait une petite officine, le pain vivant, ça s'appelle. Le pain vivant. Et alors, tu as tous les bobos qui arrivent prendre du pain qui se fait devant eux. Vous voyez, il y a un grand four, machin. Ils voient le levain qui lève. Mais en vérité, c'est des choses très profondes. Des choses très, très profondes. Par exemple, mon épouse, entre autres, de ses multiples qualités, fait le pain à la maison. On fait le pain à la maison. Voilà, avec du levain. On fait le pain avec du levain. Rien que faire le pain est quelque chose qui apporte. C'est une activité qui apporte, qui construit. Et c'est ce qu'il dit, on le voit à des versets. Vayomer lo Yonadav. Yonadav a dit à Amnon, Shrava Nishkavra. Montre-toi, Vétitral, fais-toi malade. Ou ba avicha lirotra, ton père va venir te voir. Tu lui diras que vienne ta mère, ma soeur, vetavreni lechem, qu'elle me requinque de pain. Comment elle va me requinquer de pain? Vastalena yeta beria. Elle va faire à mes yeux beria le remède. Beria, c'est la chaîne bari. Bari, comme on dit en Israël, Tie Bari, qui est la traduction de Zaygezint, n'est-ce pas? Voilà. Eliaou, toi tu parles yiddish sans le savoir. Tu vas en Israël, tu dis au revoir à quelqu'un, Tie Bari, c'est du yiddish.
Ouais. Moi je suis de Paris et lui aussi. Quoi.
Ah, si tu vois un français, bon, d'accord. Mais bon. Alors, Tavreni. Aberia, c'est la chaîne Bari, c'est-à-dire bonne santé. Qu'elle me fasse en bon français, on va dire, quelque chose qui me donne la santé.
Revigorer, peut-être.
Revigorer, qu'elle me fasse mon remède. Comment? En faisant le pain devant moi. C'est extraordinaire. Le manacher erré, pour que je la voie, je mange de sa main. Vaishka vamnor, vaitral, voilà. Va y avoir Meler Liroto, le roi est venu le voir, il a dit, hein, que vienne ma sœur, qu'elle fasse des crêpes devant moi, et que je me guérisse de sa main. Donc, le fait qu'elle fait à manger devant moi, ici, il y a plusieurs éléments. C'est que le manger, il n'y a pas seulement le fait d'avoir le manger, mais il y a aussi le faire, et qu'elle le fasse pour moi, ça me rapporte une guérison. Akatou vevima seze, le verset amène cette histoire. Amelam denou et anaouk bemeanevim, ce qui était à l'époque des prophètes. Shadam, asher koach yuto dal venechle. Donc il dit que le verset vient nous décrit comment ça se passait à l'époque des prophètes. Quelqu'un était malade, était avachi. Matza troufa bekar. Pour lui, c'était un remède. Chez l'Achim, l'Echem, Bavuro, l'Enav. On pétrissait du pain pour lui, devant lui. C'était un remède. Ça, c'est des médecines alternatives, non? C'est hyper bobo, hein, les mecs. Ça, c'est la médecine alternative. Moi, je me kiffe de ça. Moi, je me roule par terre. Ça, c'est une lecture des versets extrêmement riche. Tu vois le verset, tu le lis comme ça. Et ça veut dire, il dit, on voit de là, c'était dans les mœurs. Quelqu'un était déprimé, on faisait à manger devant lui du pain, rien que le faire, ça lui redonne de l'énergie. Bachilat alechem mede alash, la ochel, et manger le pain de celui qui a pétri pour lui, yeshno koar avraa, il y a une force de guérison. Asiat alechem nikrat de pasuk, faire le pain, est appelé dans le verset, faire un remède. Klomar, shenivra mitradesh balechem koar lechayut adam. C'est-à-dire, regardez, franchement, moi, je me roule par terre quand je vois ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est, pour moi, c'est le nec plus ultra. Il dit, faire le pain est appelé dans le verset faire un remède. C'est-à-dire, le pain, c'est ce qui me donne la vie. Dans moi, tous les commentateurs, surtout les maîtres du chassidisme, ont beaucoup travaillé là-dessus, que notre âme est liée à notre corps. Si tu ne manges pas, ça se déconnecte. Donc le manger est le lien entre l'âme et le corps. Il y en a qui disent que le manger, c'est matériel. Non, c'est ce qui relie l'abstrait avec le concret. C'est extraordinaire. Faire le pain renouvelle la vitalité de l'homme. Parce que le pain, c'est ce qui va me donner la vitalité. Donc, faire le pain, je recrée par mon action ce qui va donner la vie à l'homme. Ça, c'est ce qu'il dit le juif. C'est sublime.
Lui, il a demandé des lévivotes, mais ce n'est pas les crêpes qu'on connaît alors.
Comment ?
Non.
Il a demandé.
Alors, ça, c'est une énigme. Lui, il a dit faire du pain, mais je crois qu'il n'a pas compris. On a dit Yonadav, c'est un grand chacham, et Amnon, c'est le fils aîné, mais il n'est pas si fufu que son pote. Il a dit on passe des frites, quoi. Parce que, je ne sais pas moi, lui, il a vu que le côté peut-être un peu plus érotique que ça, tu vois. Parce que faire les crêpes, tu vois, tu soulèves, il y a la friture. Il n'a pas pigé.
La chandeur.
Avec une pièce à la main. Il n'a pas pigé la chokma. Mais ce que Rav Schlanger relève, c'est que ça allait passer chez son père, ça allait passer chez David, que la femme, elle vienne faire le pain et que ça soit un remède. Ça allait passer. Donc, ça veut dire, on voit que dans les mœurs, c'était un remède. Et d'ailleurs, c'est les mots qu'ils disent. Alors, continuons. Regardez, c'est très, très important. J'insiste que les plus grands maîtres du chassidisme ont énormément parlé de la grandeur spirituelle du manger. Et d'ailleurs, c'est évident, il y a tellement de commandements de la Torah liés au manger. Ça veut dire que manger est une activité parmi les plus élevées de l'humain. Nous, on pense, par exemple, ça je le dis souvent, on risque de répéter, dans la culture française, manger, alors ça va être super raffiné, on va mettre des salsifis avec de la langouste et de la truffe et de l'orange. Allez mec, ça n'a jamais été fait, c'est vraiment surprenant. Des truffes, de la langouste avec de l'orange et qu'est-ce que j'ai dit là ?
Des salsifis.
Des salsifis, du jus de salsifis.
C'est noté, hein, on note.
Non, alors là tu vois, mais il n'y a pas en Occident la dimension, on ne connaît pas la dimension spirituelle, qui par contre est extrêmement développée en Extrême-Orient. Béni n'est pas d'accord. Il fait la moue, là.
Non, non, je ne fais pas l'amour. Peut-être que c'est vrai, on n'a pas la dimension spirituelle du pain. Mais le pain avait toujours quand même une dimension politique, révolutionnaire, de rapport hiérarchique. Ça a toujours été un élément très important dans la vie des gens.
C'est vrai. Panem et kirkenses. Oui, alors c'est vrai, le pain. Le pain, c'est vrai.
Ouais. Émile Chama, peut-être ?
Oui, oui.
Ah oui.
Une affinité avec Milchama, oui. L'Echem.
C'est le même mot, oui.
Ouais.
Alors, mais en tout cas, c'est un grand thème, j'insiste, c'est un grand thème en chassidoute.
Oui.
Les plus grands maîtres ont énormément... D'ailleurs...
J'ai fait des tiches avec des chassidim.
Voilà, les tiches...
C'est très fort, ouais.
Les tiches, c'est le summum du service divin.
Ouais, ouais. Ouais.
Mais ça, ça peut être le tiche, il peut être chez nous. Le tiche, il est chez nous. Et c'est voilà. Donc là, on termine le paragraphe. Asiat alechem nikrat bepasuk asta biria. Faire le pain est appelé dans le vers faire un remède. Klomar, en faisant le pain, nivra ou mitradesh balechem koar lachiot andam. Se renouvelle la force d'énergie de l'homme en faisant le pain. Ça, c'est très, très développé en Extrême-Orient. Hein. Très développé. Zega minyan Hashem halal alechem. C'est ça le mot chala. C'est quoi le mot chala? Prend une dimension de vitalité dans le pain, de spiritualité dans le pain. D'où la gravité de ne pas prendre la chala. Et d'ailleurs, on peut comprendre, le pain de Shabbat, on l'appelle la chala, bien qu'en vérité, au sens simple, quand on fait le pain pour Shabbat, on fait une certaine quantité pour prélever la challah. On prélève la challah, qu'on met de côté, qu'on brûlera. Mais le pain, ce n'est pas la challah. Pourquoi on l'appelle la challah? Alors lui, il explique parce que le mot challah, chal, ça veut dire prendre. Chal. Chal, prendre, c'est-à-dire prend une dimension de vie dans le pain. Le pain prend sa dimension de vie spirituelle par le prélèvement de la chala. Les égaminyan Hashem chalal alechem. C'est ça le mot chala pour le pain. Kloma, c'est-à-dire chal bedavar prend sur la chose, mais tziyut chadasha shel chayut adam la. L'existence neuve de vitalité de l'homme chez l'oaitaba kemar bemaim keshatzma qui n'était pas dans la farine, dans l'eau, vokoar achayut shebetochu prend la vitalité qui est dans la dimension du pain. Kabbalat adam et achayut shenivra avuro basiat alechem nikrat evra meyada. L'homme prend la vitalité qui a été créée pour lui par la fabrication du pain, est appelé « Je me guérirai de sa main, mais la chône ébarré mes kocha. Je me guérirai de la force qu'elle a mis dedans. Are shanizon belechem keu nivra mechadash. » Donc, celui qui se nourrit du pain, c'est comme s'il était créé de nouveau. Une nouvelle vitalité qui prend de ce pain. Mais la reine qui chalechem nasse le nabavuro, yesh basé tosefet koar avraha. C'est pour ça, celui qui mange le pain qui était fait devant lui et pour lui, ça lui rajoute une force de guérison, ça le requinque. Et aussi, à pasouk, piresh aignan bombro betev le nashtel vivot. Alors, lui, il veut dire que lui, il a dit, elle va faire le vivote, les crêpes. C'est un autre aspect, le vav. Le vav, c'est le cœur. Ça me donne une vitalité du cœur. Les crêpes, ça, c'est très original. Hein. Le vivant est lié au mot lève. Comme dit le verset, les chem dans Tehilim, dans les psaumes, les chem, le vav est noche. Le pain soutient le cœur de l'homme. Mais ici, lev, il y a lev et levav. Parce qu'on dit levav, bechol levavra. Il y a le yetzeratov et le yetzerara. Donc là, c'est sa dimension. Alors, ce qu'il veut dire, lui, dans son explication, quand il a dit le viva, ça ne veut pas dire forcément des crêpes. Hein. Lui, le Malbim, dit qu'il n'avait pas compris Amnon. Et quand il dit le vivote, ça veut dire du pain ici. C'est ce qui me construit. C'est pas la démarche de Rav Menachem Schlanger, c'est qu'il a dit en d'autres termes ce que Yonadav lui a dit. Mais la reine Asiato nikra telavev. C'est pour ça telavev, c'est faire le cœur. Alors, il y a des notes. Je vous ai mis la photocopie de la page d'après. Alors, ce qui est extraordinaire ici, ce qui est extraordinaire, et je rends grâce à mon épouse qui m'a fait découvrir ça, qu'elle s'est toujours investie de faire le pain à la maison, de faire le plus de choses à la maison. Bon, et je dirais quelque chose qui est un peu bizarre, mais au début du mariage, elle avait une activité professionnelle. Dès qu'on a eu un enfant, elle a arrêté, elle ne voulait pas travailler. Mais ce n'est pas par flemme, mais elle, s'investir dans ces choses-là, pour elle, c'est un investissement spirituel. Faire à manger, ce n'est pas simplement faire à manger, c'est un investissement spirituel. C'est quelque chose qu'elle m'a fait découvrir. L'émerveillement n'est pas seulement au coin de la rue. L'émerveillement est dans notre vie. Notre vie est un émerveillement. Manger du pain, c'est un émerveillement. Et nous, on a connu des gens, des juifs, qui étaient très investis là-dedans. Une dame qui est décédée maintenant il y a 4 ans, une convertie, qui avait un restaurant bio. Tu as connu Fabien François et Michal David.
Oui, bien sûr. David. Hein,
et David.
Oui.
Et cette dame-là, Michal, elle nous a fait beaucoup découvrir dans le fait de faire à manger. La grandeur spirituelle qu'il y a dans le fait de faire à manger. Et ça, ce grand maître nous le sort des versets que nous étudions. Alors, regardez la note 2 de la page 110.
Rav.
Oui.
Oui. À un moment, vous avez sur le texte qu'on vient de lire, il y a écrit Chala, c'est genre le Lehem. Chal, c'est comme si c'est l'énergie qui tombe sur lui.
C'est ça.
Dans un contexte de santé.
Qui prend sur le pain.
Mais et un malade, on
le prend. Le pain, il est fait, tu vois. Le pain est fait à la maison. Nourrir, c'est pas seulement nourrir, ça apporter de l'énergie.
Mais en hébreu, le malade, ça s'appelle Holé.
Holé.
C'est Hala, c'est le même Chorèche, c'est les mêmes lettres.
C'est juste. Alors, vous avez vu la bonne question de notre ami, là, un petit clap, là, quand même. Hein, un petit clapping. Hein. Alors, vous ne connaissez pas Eli El Mosnino, là, je sens. Hein, vous ne connaissez pas. Mais je vais. Parce que, nonobstant le fait, il a quel âge tombé ? 5 semaines, là ?
Il a un mois et demi.
Un mois et demi. Donc, ouais, nonobstant le fait que tu ne dois pas beaucoup dormir la nuit, il y a quand même de bonnes remarques. Hein. Alors, il dit que le mot « cholé », malade, et « chala », c'est la même chose. Alors, je ne suis pas convaincu parce que le mot « cholé » vient du mot « rol ». Rol, qui veut dire profane. Ochala, c'est le contraire, ça prend une dimension kadosh, un peu contradictoire.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même chorèche.
Ça ne doit pas avoir le même chorèche.
Okay. On avait vu une fois le hatril avec rol, il y avait une affinité aussi.
Oui, 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 oui. Hein, quand on commence, on profane quelque chose.
Ouais, c'est ça.
Dans les études d'hébreu biblique qu'on avait fait un peu pendant le confinement, il y avait cette notion que même si c'est que deux premières lettres du Shoresh qui sont pareilles, il y a un lien entre les deux.
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire que, en fait, le hala, cette force en tout cas cette force positive qui redonne la santé, elle a un hey en plus par rapport au cholé. Elle aurait un hey final par rapport au chol.
Je sais pas, il faut creuser. Il faut creuser. Donc je redis ta remarque que cholé et hala, c'est a priori les mêmes mots. Or c'est un sens presque antagonique. D'accord. Ok. Il faut voir. Alors maintenant, regardez ce que je vous ai dit. Il va donner une lecture du verset. Regardez la lettre, le paragraphe 2. Venire, Shetzat Yonada vaita lirmos de David Ameler, alavat Amnon et Damar. Il me semble que le conseil de Yonadav était de faire une allusion à David le roi sur l'amour d'Amnon de Tamar. Shetelo otaleisha, la rotlo shatrufa mitit et machalato itarmar atzma. Il voulait, par là, en mettant Tamar en tant qu'infirmière, que David comprenne que la vraie guérison de Amnon, c'est Tamar. Chatroufa mitid, que le véritable remède pour sa maladie, c'est Tamar. Sheit Ashlim et Triotob Kalechem. Parce que la femme, elle donne un complément de vie. Comme le pain. D'ailleurs, on voit parfois que de manière allusive, on parle de la femme comme le pain. Comme dit le verset, Sheken Matsinou, Shelechem ou Kinou Laisha. On voit d'ailleurs que parfois, la femme est comparée au pain de la même manière que le pain est un complément qui nous apporte notre vitalité. Comme dit le verset, que Kiim Alechem Asher Uochel. C'est-à-dire que c'est à quel sujet? Bereshit Lametet Vav. Bereshit Lametet Vav. Bereshit. Oui, c'est Poutifar. Le verset dit là-bas que Poutifar délègue toutes ses affaires dans la main de Joseph, sauf le pain qu'il mange. Rachid dit, le pain qu'il mange, c'est sa femme. Donc, on voit que la femme, parfois, est appelée de manière allusive le pain. Parce que l'homme a un manque, et c'est la femme qui lui apporte son complément. Comme le pain, nous, on est en manque, c'est le pain qui nous amène notre complément. Donc, en disant, dis à ton père que Tamar vienne faire le pain, c'est une manière de dire qu'en vérité, c'est elle la guérison. C'est une allusion à David. Regardons le paragraphe 3. Koar a refoua chez Balechem. Il y a dans le pain une dimension de guérison. Nitfaresh, Kanaga, Lemaase, Benyan, Chashivut, Achilat, Patshacharit. Nos maîtres conseillent toujours de manger du pain le matin. Ça s'appelle Patshacharit. Le principal repas pour les Chachamim, ce n'est pas en quantité, ce n'est pas une question de manger de la choucroute le matin, une choucroute garnie avec un petit riz bien frais. Oui, le matin, tu prends ça à 8h du matin, là. Oui, ce n'est pas ça. Mais manger du pain. Alors, c'est quoi? Chez Amrou, nos maîtres disent dans le traité Baba Metzia, Shin Pegimel Chalaim Tluim Bemara. Il y a 383 maladies qui viennent de la bile, du foie et la vésicule biliaire. Vekulam Pad Shacharit Bamela Vekitot Shenmaim Mevatlatam. Et ces 383 maladies, le pain le matin avec du sel et une carafe d'eau, enlève toutes ces maladies. Yud Gimel Dvarim Nemu Bepat Shacharim, la Gemara dit, il y a 13 choses qui ont été dites au sujet du pain le matin. Donc ici, les Chachamim insistent que le pain, c'est la base de l'équilibre de la vie de l'homme. Ça, c'est des choses sublimes qu'on ne parle pas beaucoup, mais que les grands maîtres arrivent à mettre en relief. Voilà. OK ? Alors, ça, on a vu ça. Excusez-moi, quelle heure il est ? Là, j'ai pas aucune...
22h10.
Comment ?
22h10.
Voilà. Alors, on va continuer encore quelques minutes. Et puis, on va faire la récré. Ouais, la récré, ouais ! Alors... Alors, regardez, jusque-là, tout allait bien. Mais maintenant, certaines scènes peuvent choquer notre jeune public. D'accord ? Alors,
voilà, ça coupe.
Verset Zayin. Vaishlar David el Tamar abaita les morts, le China bet Amnon achir vasilo abiria. David a envoyé Tamar dans sa maison en disant « Va, s'il te plaît, dans la maison, les appartements d'Amnon, ton frère, et fais-lui à Biria. » Donc, Biria, fais-lui ce processus de remède. Fais-lui le remède. Or, ce qu'il a relevé le Rav Schlanger, c'est qu'à l'époque des prophètes, faire le pain devant la personne, c'était le remède. C'était le remède. Quelqu'un était malade, on lui faisait du pain devant et ça le guérissait. Va teller Tamar. Alors, le verset suivant, regardez, c'est terrible. Va teller Tamar bet Amnon achiva, vous shochev. Va tikar et tabat sec, va talash, va telavev les nav, va te vachel à le vivot. Alors là, là, c'est quand même, ça, c'est, elle a fait des pas du pain.
Des gâteaux.
Elle a fait des crêpes, comme on va voir. Elle est allée Tamar dans la maison d'Amnon de son frère. Il est couché. Elle prend la pâte. Elle pétrit. Et elle forme devant lui. Et elle cuit les crêpes. Batikar et à Masret, Fatitsok le Fanav. Regardez le style des versets. On la voit faire et lui, il est là. Elle est en train de verser la pâte sur la crêpière, sur la poêle. Elle prend la poêle, elle verse dedans. Vayemaen le Chol. Il veut pas manger. Vayomer Amnon, otsi ou kolish me alay. Amnon dit, donc elle lui amène les crêpes. Elle dit non, que tout le monde sorte. Parce que c'était le prince, c'était le fils aîné. Il y avait toute une cour. Elle dit, sortez tout le monde. Elle lui amène les crêpes. Elle dit non, sortez tout le monde. Vayomer Amnon el Tamar. Avi Abiria à Cheder. Amen.
Voilà.
Le remède dans la pièce intérieure et je me guérirai de ta main. Regardez le silence là maintenant, il n'y a plus personne. Elle prend Tamar, les crêpes qu'elle a faites, elle amène à Amnon, son frère, dans la pièce intérieure. Elle lui approche pour manger. Il la prend. Il la prend au poignet. Il lui a dit, « Boi shirvi mi achoti, couche avec moi, ma soeur. » Tomerlo, al achi, al taneni ki lo yaseken beisrael. Elle lui a dit, non mon frère, ne me fais pas souffrir, qu'on ne fasse pas ça dans Israël, qu'on ne fasse pas cette horreur. Vaniana olir et trechpati. Vatatie kachad anevanim ve Israël. Où amènerai-je ma honte? Et toi, tu seras comme le plus grossier des Juifs. Vata daberna. Et la mélère qui loïmaneni nimeka. Parle au roi, il ne m'empêchera pas de toi, puisque je te suis permise. Alors là, les commentateurs s'interloquent. Lui, il veut la violer. Il dit non, non, mais regarde, on n'a qu'à se marier, je suis permise. Comme il y a quelqu'un qui veut la violer, il lui dit regarde, on n'a qu'à se marier. C'est un drôle de chinois entre nous, soit dit quoi.
Ça aurait pu nous calmer en plus.
Comment ?
Ça aurait pu. Ça aurait pu le calmer. Parce que lui, là, il est. Je ne sais pas si c'est le fait qu'elle lui soit interdite ou le fait. Parce que qui Betoula, on a dit qu'il était rendu malade au début parce qu'elle était Betoula.
Oui.
Vous avez expliqué que Betoula, dans le sens qu'elle était dans un endroit réservé où les femmes ne sortaient pas.
Oui.
Donc, à la limite, ce qui le rendait fou, c'est qu'elle lui était inaccessible au départ, initialement.
C'est souvent le cas.
Mais là quand elle.
L'amour impossible. Ouais,
l'amour impossible. Mais quand elle lui dit. Mon père ne t'empêchera pas de moi, sous-entendu que moi je suis d'accord. Pourquoi pas qu'on
non, mais, peut s'arranger. Regarde, le mec il va la violer, il dit regarde, on n'a qu'à se marier. Donc c'est,
voilà.
Non, mais c'est bizarre quand même comme réaction. Non,
mais lui son mal initial, c'est l'inaccessibilité par rapport à cette femme, que finalement que cette femme elle est près de lui et elle lui donne un peu son accord pour qu'on peut s'arranger. Donc elle est plus inaccessible que ça, donc ça aurait pu le calmer un peu. C'est de vrai, sa souffrance.
Oui.
Non, mais de sa souffrance initiale.
C'est vrai. Bon, mais je relève le point qu'elle. J'ai un commentaire contemporain qui relève que Amnon, c'était pas n'importe qui. C'était on voit qu'il y avait une cour avec lui, puisqu'il y sortait tout le monde. Donc c'était. Elle était peut-être même. Ça aurait été même un honneur pour elle, parce qu'en vérité, elle, c'est une migrante. Mm. C'est la fille quand même. C'est la fille quand même de la Goya de service. Je veux dire, excusez-moi l'expression, même si c'était la fille d'un roi. Mais quand même. Là, maintenant, il y a le fils aîné qui veut l'épouser, enfin, qui veut d'elle. Elle n'est pas contre, sur le fond. Même si, là, il a l'air d'être un vulgaire personnage, mais elle lui dit, non, si tu continues, tu vas être un vulgaire personnage. Là, ne fais pas ça. Regardez comme c'est beau. Où vais-je amener ? Elle parle en alexandrin. Vaniana olir et trerpati, où vais-je amener ma honte ? Et tu seras comme un des plus grossiers d'Israël. Parle, s'il te plaît, au roi. Il ne m'empêchera pas de toi. Velo avalishmoa bekola. Veyechazek mimena, veyanea, veyishkavota. Il n'a pas voulu écouter sa voix à elle. Veyechazek mimena. Il a été plus fort qu'elle. Donc là, on dirait plus fort qu'elle. On avait lu ce verset la fois dernière, que sûrement ils se sont battus là. Là. Il a été plus fort qu'elle, donc elle s'est battue. Vayanea, il l'a violée, excusez-moi l'expression, en allemand. Veshkavota, ensuite il l'a couchée. Parce qu'en vérité, le commentaire explique le. Une seconde. Oui, parce que peut-être lui avait-il encore l'illusion qu'il pourrait l'épouser en tant que Betoula. Donc, il abusait d'elle, excusez-moi l'expression, de manière anale, mais ça ne l'a pas contenté. Après, il est allé avec elle par les voies habituelles. Et le verset suivant. Vaisnaea Amnon Sina Gedola Meod.
Oh la vache.
Qui gdola asina asher senea meava asher raeva. Regardez la fin. Vayomerla Amnon kumilechi. C'est Amnon, une fois qu'il a abusé d'elle complètement. Il a haï une haine terrible. Plus grande était la haine qu'il a aimé, qu'il a haï, que l'amour qu'il a aimé. Amnon lui a dit, lève-toi, pars. Foucault. ותאמר לו על אודות הרע הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית אימי לשלחיני ולא אהבה לשמוע לה. Il lui a dit, au sujet de ce grand mal, et pire, elle lui a dit, au sujet de ce mal qui est pire que ce que tu m'as fait, de me renvoyer comme ça, c'est encore pire. Il n'a pas voulu l'écouter. ויקרא את נערו משרתו ויאמר שילחונה את זאת מעלי החוצה ונו לדלת אחריה. Il a appelé son page qui le servait. Il lui a dit, renvoie celle-là de devant moi à l'extérieur, ferme la porte. Bien. Alors, on s'arrête là pour le moment, sur ce suspense terrible, c'est un passage terrible. Et il y a énormément de commentaires là-dessus, dont une Gemara dans le traité Sanhedrin d'Afkaf Aleph. Donc la prochaine fois, Bezrat Hashem, dans 2 semaines, on fera la Gemara afférente à ce verset. Okay. Alors, le Malbim, en explication très profonde, dit que une fois qu'il s'est rendu compte jusqu'où il s'est abaissé, alors, il s'est abaissé, il n'avait plus c'est la source de cette haine, voilà, qui s'est retrouvé sans rien à cause de son délire, et il n'assume pas cette honte infinie qu'il avait de lui-même. Mais les Chachamim ont une autre explication que nous verrons. Mais il faut voir tout le passage dans le traité de Sanhedrin. Ok ? C'est bon ?
C'est bon.
Merci.
Merci à vous.
Merci.